La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art. Bonjour et bienvenue dans cette 21e émission de la Semaine de l'Art, où je reçois Franck Ferrand, animateur de radio et télévision, spécialisé dans l'histoire, écrivain, donc il connaît l'histoire, il connaît également l'histoire de l'art, quoi qu'il en dise, puisque je l'avais rencontré à l'époque, et il nous en parlera certainement, parce que c'était une aventure assez extraordinaire, chez Horaos.com, qui était pas l'ancêtre de la Tribune de l'Art, mais un petit peu quand même. Donc il connaît également l'histoire de l'art, et nous en parlerons ensemble, ainsi que du patrimoine, de Versailles, qu'il aime beaucoup, et de tout ce qui concerne la protection des objets d'art et du patrimoine.
La chronique. La Tribune de l'Art est une revue consacrée au patrimoine et à l'histoire de l'art. Nous ne parlons du marché que lorsqu'un événement a de ce point de vue un intérêt pour nos lecteurs. Ainsi, nous consacrons des articles au salon dédié à l'art ancien, comme la TEFAF, le salon du dessin ou Paris Tableau. Nous signalons les ventes proposant des œuvres importantes ou les expositions de qualité muséale chez des marchands, ou encore les enrichissements des musées faits dans les ventes aux enchères et chez les antiquaires. Nous avions été au courant, avant tout le monde, en leur temps, des graves accusations qui pesaient sur l'école rouge à l'hôtel des ventes, ayant abouti à leur expulsion de Rouault. Comme nous connaissions la mise en examen de certains commissaires-priseurs, nous savions même dans quel ordre elles auraient lieu, mais nous n'avions pas parlé de ces affaires car elles sortaient clairement de notre champ. En revanche, l'avenir de l'hôtel des ventes nous concerne, car il s'agit, comme nous l'avions écrit dans un article récent à propos des acquisitions du Louvre à Abu Dhabi, d'un excellent endroit pour se former à la connaissance des œuvres et du marché. Sa disparition serait une mauvaise nouvelle pour le patrimoine. Or, depuis 2 ou 3 ans au moins, à Drouot, rien ne va plus. Non content de fermer pendant 3 mois en été pour travaux, ce qui peut à la limite se comprendre, l'hôtel des ventes pratique désormais des ouvertures erratiques, sans même communiquer clairement à ce sujet. Il n'a rouvert que fin janvier, ne se contentant plus de clore ses portes pendant les week-ends des congés scolaires. Il a fermé tous les samedis ou presque de février, et on apprend aujourd'hui, c'est écrit sur ses portes, que ce sera une fois de plus le cas du samedi 7 au lundi 9 juin. Pourtant, ce mois est depuis toujours particulièrement actif en ce qui concerne les ventes. Pourquoi une telle situation? La concurrence d'Internet et la crise, parfois évoquées, ont bon dos. En réalité, l'hôtel Drouot se révèle incapable d'évoluer. Pratiquant des prix trop élevés, refusant parfois de louer ses salles à des sociétés de vente n'ayant pas de part dans Drouot SA, il pousse de plus en plus d'études à ouvrir leurs propres espaces. Il faut lire l'article du Figaro par Béatrice de Rochebouette et Valérie Sasportas, paru le 8 mai dernier, intitulé « Drouot, le grand gâchis » pour comprendre le problème. Les conséquences sont de plus en plus visibles. Les sociétés de vente les plus actives fuient l'hôtel des ventes et ouvrent leurs propres salles. Récemment, Piazza a investi les anciens locaux de Didier Aron. La jeune société Fauve a ouvert un espace dans le 11e arrondissement, proposant de nombreux services que Drouot n'offre pas. D'autres salles encore s'ouvrent ou vont s'ouvrir en dehors de l'hôtel des ventes, suivant l'exemple précoce de Tajan et d'Arcurial. Bientôt, pour suivre les ventes aux enchères à Paris, il faudra faire un circuit très complexe entre l'est de Paris, le 9e arrondissement autour de l'hôtel des ventes et le 8e du côté d'Arcurial, de Sotheby's et de Christie's. Il est vraiment dommage que les commissaires-priseurs en charge de l'hôtel des ventes soient à ce point aveuglés qu'ils ne voient pas que Drouot, une institution centenaire, est en train de mourir faute de savoir évoluer. Ce n'est une bonne nouvelle pour personne et sûrement pas pour les musées qui ont déjà du mal à suivre tout ce qui se passe en vente. Comme on le lit dans l'article du Figaro déjà cité, Drouot n'a pas d'équivalent dans le monde. Il est à craindre que dans quelques années, tout cela ait disparu. Fréquentez-vous l'hôtel des ventes
Oui, bonjour Didier.
Bonjour.
Je connais bien Drouot, puisque lorsque j'étais étudiant, je dirais même que je faisais l'école buissonnière pour être, pas tous les après-midi, mais très souvent à Drouot. À l'époque, je n'avais pas du tout les moyens d'acheter, mais peu importe. J'étais là, je me familiarisais avec ce monde, cette faune, disons-le, cette ambiance si particulière, au sein de laquelle, d'ailleurs, on peut croiser parfois des personnalités tout à fait remarquables. Je pense à Claude Lévi-Strauss, qui hantait littéralement l'hôtel des ventes. J'ai beaucoup passé de temps dans cet endroit, même si je ne l'ai jamais aimé de cœur. Je trouve que c'est un endroit assez réfrigérant, qui ne met pas l'art en valeur. Et c'est vrai, on peut comprendre que certains études, certains commissaires-priseurs préfère des décors plus accueillants. Évidemment, lorsque vous assistez à une vente de cornettes de Saint-Cyr à l'hôtel Salomon de Rothschild, c'est plus attrayant, c'est plus agréable que dans la salle 12 de Drouot, incontestablement. Mais comme vous le dites, il y avait un côté tellement pratique. Tout était réuni dans un seul endroit. C'était une spécificité, ça faisait partie de notre exception culturelle. Et comme le reste, et pour les mêmes raisons, on va voir ça disparaître peu à peu. Le navire est probablement en train de couler, effectivement.
Effectivement. Alors vous disiez justement que vous fréquentiez l'hôtel des ventes. Vous vous intéressez depuis toujours aux objets d'art particuliers.
Oui, toujours. Ça m'a toujours été un fort intérêt chez moi. On ne pourrait pas parler de passion, je ne suis pas collectionneur. En revanche, je crois pouvoir dire que je suis chineur. Oui, ça c'est vrai.
Très bien. Et pouvez-vous nous dire un mot de votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Comment vous êtes arrivé à l'histoire? Comment vous êtes arrivé à la radio? Et
l'histoire est une passion depuis mon plus jeune âge. C'est une institutrice. Vous savez, moi je suis d'un milieu provincial tout à fait modeste où la culture n'avait pas toujours droit de cité, même si on la respectait, on la regardait de loin avec révérence, si je puis dire. Et c'est une institutrice qui m'a passionné pour l'histoire. Elle avait cette capacité à rendre l'histoire vivante par la narration. Elle était une conteuse avant tout. Et je crois que c'est ce qui m'a frappé. C'est sans doute aussi ce que viennent chercher dans un certain nombre de mes émissions les jeunes auditeurs ou les jeunes téléspectateurs qui m'envoient tant de courriers actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont en attente d'un récit, de belles histoires d'une certaine manière. C'est comme ça que je suis arrivé à l'histoire. Je me suis très tôt, quand je dis très tôt, à 7 ans et demi, je me suis vraiment passionné pour le château de Versailles. Je n'ai eu de cesse que de découvrir les lieux, ce qui a eu lieu quand j'avais 11 ans. Et à partir de là, et pourtant c'était une grosse déception, ce que je raconte hein, dans le dictionnaire amoureux, je le dis dès les premières pages, que ma rencontre avec Versailles ne s'est pas effectuée sous de bons auspices, peu importe, j'ai continué à me passionner pour cette maison, pour son histoire, pour son incroyable concentration d'art et d'histoire, c'est ça que je trouvais fascinant, et c'est vrai que c'est bizarre, mais 40 ans plus tard, je n'en suis toujours pas sorti.
Alors justement, nous parlerons de Versailles tout à l'heure, et c'est de Versailles, des monuments historiques, bien sûr, et de l'histoire de l'art dont nous sommes là pour parler.
Bien sûr.
Non pas d'histoire, qui est votre spécialité. Mais lorsque j'ai annoncé sur Twitter que vous étiez notre invité, j'ai eu beaucoup de réactions négatives, disons-le. J'ai l'impression que je reçois quelqu'un qui serait d'extrême droite, du Front National, etc., sous prétexte que vous avez dit des choses qui ne plairaient pas à certains. Alors, oui. Je tiens à préciser, vous auriez soutenu Laurent Deutsch, etc. Moi, je n'ai rien contre Laurent Deutsch. Je ne crois pas à beaucoup de choses qu'il écrit. Il y a beaucoup d'erreurs. C'est vrai qu'il a une certaine passion qui, je pense, peut déclencher chez des personnes un amour de l'histoire qui est certainement vertueux. Oui. Maintenant, je ne suis pas là pour défendre Laurent Deutsch. Je ne suis pas là pour défendre vos écrits en histoire que je ne connais pas. On parle d'Alésia pour lequel vous contestez la...
Mais tout est là, hein, c'est ça le sujet.
Voilà. Bon, je vais vous avouer que je ne sais pas du tout.
Et je vous explique en deux mots pour que vos auditeurs soient éclairés, que vous le soyez aussi, vous Didier. Vous auriez annoncé il y a un mois ou un mois et demi que vous m'aviez comme invité. Je pense que vous auriez reçu des centaines de mails enthousiastes et heureux. J'ai eu le malheur, pour la troisième fois, hein, puisque c'est arrivé une première fois en 2007, une deuxième en 2008, là je m'étais tenu un peu tranquille pendant quelques années, j'ai récidivé si je puis dire, j'ai le malheur d'essayer de dire une vérité, ou ce que je considère comme tel, concernant un de nos plus grands sites archéologiques et historiques, le site d'Alésia. C'est une polémique qui dure depuis 150 ans, qui a été réactivée il y a une cinquantaine d'années, qui aujourd'hui a des implications politiques, économiques et touristiques très importantes. Et à partir du moment où, vous savez, c'est très intéressant cette histoire, quand vous avez beaucoup d'arguments à avancer sur un sujet donné, et qu'en face de vous, vous avez des gens qui n'en ont aucun, et ça, les choses sont ainsi, et je l'ai dit, écrit, répété partout, parce que c'est la stricte vérité, ça, ils n'ont rien à opposer aux arguments, puisque ce sont des chiffres, ce sont des dates, ce sont des éléments concrets de topographie, de paysage, etc. Bon. Donc comme ils n'ont rien à dire, le seul moyen de s'en sortir et de sauver leur espèce de musée au parc qui a quand même coûté 72 millions d'euros aux contribuables sur la première tranche, et on s'apprête à en redépenser 50, là je vous le signale quand même, le seul moyen de s'en sortir, pour notamment tous les membres de la... enfin tous ceux qui émargent à la société d'économie mixte du musée au parc, c'est d'attaquer la personne. Alors on est allé chercher visiblement, je ne le savais même pas, c'est vous qui me l'apprenez, on est allé chercher les articles que j'ai écrits pour le Figaro en faveur de notre patrimoine religieux, on est allé chercher des soutiens que j'ai donnés à leur Laurent Deutsch, et je les donne d'autant plus volontiers ces soutiens que Laurent Deutsch est un ami, et que nous partageons la même tendresse pour l'ancienne monarchie française. Alors c'est ça qu'on me reproche, c'est d'aimer nos rois. Eh bien écoutez, tant pis, moi j'estime que ce n'est pas un crime. Et entre nous soit dit, il n'y a évidemment rien de politique là-dedans, car pour ce qui est de mon engagement politique, il est connu et public. Les deux seules personnalités que j'ai jamais soutenues dans ma vie s'appelaient Raymond Barre et François Bayrou. Je ne pense pas que ce soit de grands extrémistes.
Non, je ne pense pas. Et si j'ai voulu aborder cela, ce n'est effectivement pas pour vous répondre par rapport à Alésia, sur lequel, encore une fois, je dois vous avouer mon ignorance totale. Je ne sais pas si vous avez raison ou si vos adversaires ont raison, et ça n'est pas le problème pour moi. Simplement, il est vrai que j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien dire. Ça m'est arrivé également pour moi quand, en défendant les églises, moi je ne me place pas d'un point de vue religieux.
Moi non plus.
Je me place d'un point de vue historique, d'un point de vue histoire de l'art.
Exactement.
Et la protection des églises, pour moi, rentre dans ce domaine. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont croyants, qu'il faut respecter. Ça fait partie également, vous l'avez écrit, je suis désolé, c'est un terme qui n'est pas horrible, de racines de la France, même si elles ont évolué depuis, et ça fait partie du patrimoine historique. Ce qui me gêne un petit peu, la seule chose qui me gêne un petit peu, même si, si on reprend l'exemple de Laurent Deutsch, que je connais un peu mieux ce qu'il a écrit, il y a beaucoup d'erreurs, à mon sens, en tout cas, c'est ce que
j'ai
dit.
Oui, il y en a, c'est vrai.
Il y a beaucoup d'erreurs qui, à mon avis, c'est un petit peu ennuyeux quand on se prétend faire de l'histoire, mais bon, il y a
Je n'ai jamais de près ou de loin, entre nous soit dit,
bien sûr.
Et ça n'est pas, je pense, faire injure à Laurent que de dire ça, mais on n'a jamais fait de livre ensemble.
Bien sûr, c'est pour ça que c'est pour ça que je ne parle pas de vos écrits d'histoire, pas du tout. En revanche, je sais que quand nous avons travaillé au côte à côte à chez Oraos, vous étiez absolument d'une rigueur extrême qui m'avait toujours impressionné.
J'espère être d'une grande rigueur. Si on devait définir mon attitude dans ce métier, depuis maintenant plus de 20 ans, je crois que le seul terme auquel je tiendrais, c'est précisément la rigueur. Et sur l'affaire d'Alésia, pour clore la question, et encore une fois, je n'ai pas l'intention de vous entraîner sur cette pente dont vous aurez compris qu'elle est assez savonneuse, pour l'affaire d'Alésia, je n'ai jamais rien écrit ou avancé qui ne soit intégralement prouvé. C'est bien ça qui les embête, entre nous.
Alors en tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand je défendais les églises, j'ai eu certaines personnes qui, en gros, m'accusaient d'être Front National, ce qui est une horreur, puisque je déteste le Front National, il n'y a rien de plus qui me fait horreur que le Front National, et les extrémistes en général. Donc franchement, c'est un petit peu insupportable, c'est ça qui est un petit peu insupportable, c'est qu'on ne peut pas dire quelque chose qui est tout à fait discutable, on peut discuter plein de choses, même si on se trompe, on peut même se tromper sur un fait historique ou pas, mais en tout cas, on ne peut pas vous accuser de Front National, ni moi, ni personne. C'est ça, c'est la seule chose qui peut arriver.
Oui, d'ailleurs, enfin bon, il faut laisser, le général de Gaulle disait, il faut donner du pain au canard, moi, tout ce que peuvent raconter ces gens, dont un certain nombre sont d'ailleurs plus ou moins appointés par mes propres adversaires. Hein. C'est-à-dire que, vous savez comment ça marche, Internet, c'est pas à vous, Didier, que je vais apprendre comment ça se passe. C'est-à-dire que quand vous voulez un peu discréditer quelqu'un, vous avez des étudiants, des copains, des amis, etc., qui écrivent.
Je ne sais pas. En tout cas, ceci, je signale tout de suite que mes interlocuteurs sur Internet ne m'ont pas traité de Front National, mais derrière... On sent toujours un petit peu, c'est toujours un petit peu.
Moi non,
le...
enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'est ce qui est.
Il ne disait pas ça, mais on parle de. On a l'impression d'une personnalité sulfureuse. On peut
je
tout de même discuter.
Je suis un peu réactionnaire et je l'assume. C'est-à-dire que j'estime que nous vivons dans une époque. Alors ça, oui, en revanche, hein, et ça, c'est plutôt sur un plan esthétique. Là, on parle plus du tout de politique. Hein. Mais sur un plan esthétique, sur un plan de cadre général, je trouve que nous vivons dans une époque qui laisse trop facilement perdre un certain nombre des fleurons que nous ont légués les siècles. Ça,
alors,
c'est vrai.
Nous y reviendrons par rapport à la
protection. Donc, de ce point de vue-là, je sais qu'aux yeux de certains, je passe pour réac, mais je vous avoue que ça ne m'empêche pas de dormir. Hein.
Très bien. Alors, revenons à Oraos. Donc, Oraos, c'était en 2000. J'ai regardé un peu sur Internet. En fait, sur Internet, il n'y a plus aucune trace. Et ça, je trouve que c'est intéressant. On a encore le dépôt légal au XVIe siècle. On a conservé le dépôt légal, mais les sites Internet des années 2000, on ne les conserve plus. C'est-à-dire que Oraos... Racontez-nous un petit peu cette histoire d'Oraos, qui quand même vaut le coup d'être au moins remémorée.
C'était une belle... comme on dit, c'est Madame de Pompadour qui disait ça, nous aurons fait un beau rêve, voilà tout. Je pense qu'effectivement, c'était une belle entreprise. L'idée était d'utiliser ce nouveau média, qui à l'époque, quand même, en 2000, je dirais pas que c'était tout à fait nouveau, mais ça faisait 5 ans qu'on parlait.
On n'avait pas le haut débit à l'époque.
Non, voilà, par exemple. Et donc, on se disait, ça va ouvrir des horizons incroyables, et c'est le moment d'en profiter pour monter une sorte de grand journal de l'art et de l'histoire de l'art. Bon, j'ai été entraîné dans cette mouvance avec vous, Didier, avec un certain nombre de personnes de grande qualité. Certains d'ailleurs, disons-le franchement, moi ça n'était pas mon cas, moi j'ai fait ça en plus d'autres choses, mais certains se sont consacrés à Oraos, ont laissé leur poste dans de grandes maisons d'édition ou dans des institutions culturelles nationales pour aller s'occuper d'Oraos. Évidemment, ça a fait comme un certain nombre d'autres start-up, parce que c'en était une.
C'est une start-up.
C'était une start-up, et bien elle s'est effondrée. Sans... Alors moi je ne savais pas que ça avait coûté autant
14
d'argent.
14 000, on le retrouve, ouais. 14 millions de francs, c'est-à-dire à plus de 2 millions d'euros à l'époque. C'est vrai que dès le départ il y avait des locaux extraordinaires,
oui,
mensonges tous sur les Champs-Élysées, il y avait 25 collaborateurs, c'était un peu trop. Et je dois dire que la Tribune de l'Art n'est pas née d'Oraos. J'avais pensé à faire un site internet avant Oraos. Je l'avais laissé tomber, cette idée, puisqu'il y avait Oraos. Et deux ans ou trois ans après, j'ai repris un peu le flambeau.
L'idée, oui, voilà, exactement.
Mais avec beaucoup moins d'argent.
Avec moins d'argent, avec peut-être un tout petit peu plus de fonds. Quand je dis de fonds, nous entendons. Et avec surtout... vous aviez, comme on dirait dans le monde des affaires, réduit la voilure.
Tout à fait.
Alors, moi, Oraos, ça a été une belle expérience à titre personnel, pour deux raisons. D'abord, parce que ça m'a permis d'avoir une première expérience dans le monde, on va dire, de la presse écrite, puisque j'avais écrit déjà pas mal de livres à l'époque. Je ne travaillais pas du tout ni à la radio ni à la télé à cette époque-là. Et je ne savais pas si je pouvais fournir des articles régulièrement à assez haute dose. En l'occurrence, oui, j'en ai eu la preuve. Et puis surtout, ça m'a permis, parce que c'était une de mes missions, nous étions en accord avec la Gazette d'ailleurs sur ce sujet-là,
sujet
très précis, on me demandait d'aller rencontrer un certain nombre d'antiquaires. Et donc, alors voilà un monde que j'ignorais. Et j'ai été reçu par tous nos plus grands antiquaires. Enfin, tous.
C'est vrai, vous le faisiez pour les objets d'art, je crois, et je l'avais fait pour la peinture également.
Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, j'allais rencontrer tous ces grands marchands en France ou ailleurs, à Paris ou ailleurs en province. Et ces gens étaient tous très passionnés. J'ai vraiment beaucoup aimé ces rencontres. Je ne sais pas d'ailleurs ce que sont devenus ces articles. Je ne sais même pas si je les ai toujours, moi.
Alors, effectivement, j'avais imprimé mes articles, mais tous les autres articles ont disparu. Si vous ne les avez pas imprimés, pense qu'on ne les retrouvera jamais.
Bon,
ils ont disparu dans le cloud, comme on dit, mais de manière totalement définitive. Donc maintenant, actuellement, vous avez deux émissions, donc des émissions de vulgarisation, ce qui n'est pas un gros mot grossier. Je n'ai jamais pensé que c'était un mot grossier. Et justement, c'est un petit peu pour ça aussi que je voulais vous faire venir, parce que vous avez réussi, en tout cas vous réussissez avec beaucoup d'auditeurs, à donner le goût de l'histoire. Et malheureusement, il n'y a pas vraiment l'équivalent pour l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émission grand public pour l'histoire de l'art. Alors de temps en temps, vous abordez ces sujets, les sujets patrimoniaux.
De plus en plus souvent. Alors ça, c'est un paradoxe et qui, pour vous, je crois, est très intéressant en effet. À la radio, je faisais des sujets qui étaient des sujets d'histoire pure. Et puis, lorsque nous sommes passés à la télévision, j'ai même encore restreint le spectre, puisque nous nous sommes mis à traiter des sujets des énigmes, des sujets mystérieux d'une certaine manière. Ce qui me passionne le plus, moi, évidemment, ce qui m'intéresse dans l'histoire, ce sont les questions qui ne sont pas définitivement réglées. Bon. Donc, c'était aussi bien à la télé qu'à la radio, c'était mon domaine. Et puis, je me suis mis par goût et par, encore une fois, ça fait partie de mes passions, par ailleurs, de mes violons d'ingres, si l'on ose dire. Je me suis mis à faire quelques émissions sur des peintres, sur des sculpteurs, sur des architectes. Et j'ai découvert, à la radio cette fois, et je les ai faites essentiellement d'ailleurs avec un conférencier des musées nationaux qui s'appelle Serge Legas, qui a un sens extraordinaire pour faire passer l'image par les mots. Ça c'est magnifique, quand il vous parle de Van Gogh ou quand il vous parle, comme hier, de Caravage, on a l'impression d'avoir l'étoile sous les yeux. Bon. Et à ma grande surprise, ce sont les émissions qui ont le plus de succès, figurez-vous. Et donc, c'est vrai que, suivant le goût du public, n'est-ce pas, c'est la vox populi, vox dei, j'ai tendance maintenant à en faire beaucoup plus, et sans révéler de grands secrets, je crois que je vais en faire même encore davantage dans l'avenir. Alors ça, c'est pour la radio. Pour ce qui est de la télévision, j'aimerais beaucoup monter une émission de vulgarisation en matière d'histoire de l'art. Alors là, je pourrais pas la faire seule, évidemment, parce que je m'y connais effectivement moins qu'en matière strictement historique. Mais en tout cas, ça fait partie de mes projets. Alors peut-être que d'autres me grilleront la priorité. Vous savez que le problème à la télévision, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais en tout cas, ça fait partie de mes projets très sérieux pour l'année prochaine, en fait.
Très bien. Écoutez, et alors actuellement... L'ombre d'un doute sur France 3, rappelez-nous le concept en deux mots.
Alors, l'ombre d'un doute, c'est précisément une enquête. Hein. Alors, Pendant les 28 premiers épisodes qui étaient en deuxième partie de soirée sur France 3, nous répondions à une grande question. Napoléon était-il franc-maçon? Alors on est allé même sur des sujets un peu polémiques, mais ça fait partie, vous l'aurez compris maintenant, de mon aura sulfureuse. Nous avons parlé par exemple de la vocation de Jeanne d'Arc. Est-ce que Jeanne d'Arc était manipulée à son insu, mais tout de même, enfin, etc. Ces émissions ont eu d'ailleurs pas mal de succès, elles me plaisaient beaucoup. Il se trouve que France 3 a mis fin à ses deuxièmes parties de soirée il y a un an et demi maintenant, et que plutôt que de supprimer l'émission, il faut s'en estimer heureux, les directeurs de la chaîne nous ont fait passer, comme on dit, en prime, c'est-à-dire en première partie de soirée. Ce qui fait que là, on est très exposé devant des millions de gens à 20h30, donc on ne peut plus traiter des sujets aussi pointus. Évidemment, je pense que le très grand public qui en famille regarde la télévision à 20h30 s'en moque un peu de savoir si Napoléon était franc-maçon. Bon. Donc, à partir de là, nous en sommes venus à faire des émissions un peu plus larges, à mon avis, et entre nous, un peu trop large. C'est-à-dire qu'on a parlé de Florence, on a parlé de Bordeaux, on a parlé de Venise, on a parlé du Louvre, on a fait une grande émission sur les 800 années d'histoire du Louvre. Le problème, c'est que on perdait, à mon avis, le suc même, ce qui faisait la substance de l'émission, c'est-à-dire son côté investigation, cette enquête historique. Historia, en grec, c'est l'enquête. Bon. Et donc, j'ai obtenu, mais il y a encore une émission là qui va être diffusée le 11 juin sur les châteaux de la Loire. Et ensuite, nous allons revenir à l'enquête. Et pour vous donner un exemple, deux exemples, les deux premières émissions que nous allons faire en septembre et octobre seront l'une sur Napoléon, justement, et on parlera de Waterloo, a-t-on trahi Napoléon, et l'autre sur l'affaire Louis XVII qui est en train de rebondir, vous savez peut-être, étant donné les études et les analyses ADN qui viennent d'être faites. Donc, on revient à l'énigme, à l'enquête, même en première partie de soirée. Alors, c'est risqué, évidemment, c'est un pari que nous prenons. J'espère que le public nous suivra et que ce pari sera réussi.
Alors, au cœur de l'histoire sur Europe 1, donc c'est quotidien.
Ça, c'est tous les jours, oui.
Donc, c'est la semaine,
en tout cas.
Voilà, ce qui doit être assez lourd, d'ailleurs, à préparer. Mais alors, vous avez à chaque fois, donc, vous expliquez, vous racontez une histoire, et ensuite, vous avez un invité, en général.
Exactement. Donc, une demi-heure de récit, ce que les gens attendent beaucoup, et puis une demi-heure d'entretien.
Sur l'histoire de l'art, le patrimoine, quelles sont les émissions que vous avez pu... que vous allez faire.
Dans les temps qui viennent de se passer, on vient de faire une émission sur les cathédrales, on en a fait une autre là sur... on est en train d'en préparer une, tiens, sur la Madeleine. On a raconté l'épopée de l'obélisque de Louxor jusqu'à la place de la Concorde. Je viens donc hier de faire une émission sur Caravage. On en avait fait une autre il y a quelques semaines sur Delacroix. Enfin voilà, on est dans ce registre-là et ces émissions plaisent beaucoup, donc on va en faire davantage.
Très bien. Nous allons passer maintenant à quelques nouvelles brèves. Les nouvelles très très brèves. L'ouverture des salles d'objets d'art du Louvre a eu lieu il y a deux jours et actuellement il y a plusieurs inaugurations. Malheureusement, vous n'avez pas pu les voir.
Mais non, j'étais invité en ce moment même.
Là, voilà, nous aurions pu en parler de manière plus détaillée. Je vais en dire un mot. Il y a quelques mois, nous en avions parlé ici même dans l'une de nos chroniques. Nous avions pu visiter ce chantier qui était en train de se faire. J'y exprimais ma crainte vis-à-vis des reconstitutions souvent très généreuses de certains décors et également de l'intervention du décorateur Jacques Garcia. Malheureusement, mes craintes sont un peu avérées. Je consacrerai un article détaillé à ces nouveaux aménagements. Mais on pourrait peut-être se retourner vers vous directement, et on parlera de Versailles tout à l'heure. Dans votre dictionnaire amoureux de Versailles, vous parlez de Jacques Garcia, vous avez l'air de considérer que son intervention à Versailles est plutôt bonne. Moi, je dois avouer que ce qu'il a fait, en tout cas, vous ne l'avez pas vu, ce qui se passe au Louvre, avec des rideaux systématiquement posés sur des boiseries anciennes, des rideaux qui sont, je pense, d'un goût assez douteux, une reconstitution d'une tente turque un petit peu spéciale. Je trouve que tout cela n'est pas vraiment digne du Louvre. Et je regrette qu'au Louvre, on fasse appel à un décorateur pour exposer, de manière qui devrait être scientifique, des objets. Alors peut-être que cela, ça plaira au grand public, mais moi je préférerais que ça soit un peu plus sérieux, justement.
Alors, vous me crucifiez, Didier, puisque pour tout vous dire, Jacques Garcia est un de mes tout meilleurs amis, je suis un intime, j'ai même préfacé le grand livre qu'il vient de publier, là, chez Flammarion, qui, entre parenthèses, est une merveille, hein, le livre sur ces 20 ans de résurrection du château de Champ de Bataille. Nous comprenons, si je puis dire, avec Jacques, nous sommes vraiment, comme on dit, sur la même onde. Alors, ça ne veut pas dire que je suis toujours enthousiaste pour tout ce qu'il fait, mais enfin, ça, c'est quand même le cas pour la plupart de ses réalisations. Je suis assez fan, disons-le. Je n'ai pas vu donc encore, là c'est une Alors, question
ouais,
d'heure, hein,
bien
puisque
sûr.
Ça va se jouer, je crois que j'y vais après-demain finalement. Bon, je n'ai pas vu encore les salles qu'il vient de préparer, de présenter au Louvre. Ce qu'il faut dire, il y a deux grands aspects au-delà de la personne de Jacques Garcia, qui, ça je peux vous le dire parce que j'en ai beaucoup entendu parler quand, dans les déjeuners avec lui, etc. Il y a mis, comme on dit, tout son cœur et tout. Bon,
je veux bien le croire, je veux bien
Maintenant,
croire.
Maintenant, à partir de là, il y a deux choses. D'une part, la question, toute la problématique des period rooms, en fait, hein, qui est née après la Seconde Guerre mondiale et même pour trois musées avant la Seconde Guerre mondiale, mais on va dire au milieu du XXe siècle, essentiellement aux États-Unis, même si les Anglais ont emboîté le pas très vite, et qui consistait à recréer des intérieurs avec boiseries, mobilier, objets d'art, tapis, éventuellement tenture, en tout cas redonner un ensemble décoratif complet et cohérent. Ça, c'est ce qui anime Jacques Garcia. Alors lui, il va peut-être un peu plus loin puisqu'il travaille, et c'est ce que veut faire Béatrix Saul à Versailles aussi, hein, on est sur le même registre, il travaille l'un et l'autre sur les atmosphères. Leur but est, au-delà de l'exactitude matériel du décor, de nous en présenter une vérité spirituelle, d'une certaine manière, avec ce que ça peut présenter de subjectif, bien sûr, voire parfois peut-être d'un peu dérangeant, pour ce qui est des grands rideaux, par exemple. Bon, il est évident que les objets d'art, les boiseries dont vous parlez, etc., ils ont été conçus pour aller avec des rideaux. Mais on s'est habitué, nous, pour des raisons muséographiques, on s'est habitué depuis plus de 100 ans, aller voir sans. Donc le retour des rideaux peut déranger, je le conçois. Moi, généralement, et encore une fois, je n'ai pas vu ce que ça donne au Louvre, mais généralement, je suis tout à fait pour, et je trouve que ça complète l'ensemble, ça harmonise. Comme disait Jacques Garcia dans le premier ouvrage que nous avions écrit ensemble, on en a écrit trois, enfin on en a fait deux plus, moi, la préface du troisième, et il disait « Quand tout est exposé, rien n'est exposé ». Je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire qu'en fait, on est à un niveau, pour ce qui est des grands ensembles décoratifs, en l'occurrence des XVIIe et XVIIIe siècles auxquels il s'attaque au Louvre, on est à un niveau d'excellence et de perfection générale extrême, et tout objet sorti de son contexte se met à prendre une sorte d'aura ou de charisme, si j'ose employer ce terme quasi animiste, particulier. En remettant tout ça dans un contexte global, en faisant tout respirer au même niveau, en mettant les bons tapis, la bonne passementerie, les bons rideaux, au même niveau que les boiseries, que l'ébénisterie, que les bronzes ou que les porcelaines, etc., on arrive normalement à créer un ensemble qui ne présente plus de distorsion esthétique. C'est en tout cas son objectif à Jacques, c'est ce qu'il poursuit. Alors est-ce qu'il y arrive? Il y arrive toujours parfois, on va dire, plus ou moins bien. Là, j'ai entendu dire, je ne sais pas, j'ai pas vu moi, j'ai entendu dire que les parquets avaient l'air très neufs et un peu secs. Bon,
c'est
il faut
vrai.
Peut-être qu'ils se patinent un peu aussi. Bon. La deuxième grande question, et j'en termine, hein, mais la deuxième grande question qui se pose, c'est celle du musée. Quel est le statut du musée? Alors, au risque, mais malheureusement maintenant, je ne sais plus quand je dois ou non prendre la parole, parce que...
Ici, vous pouvez.
Il y a des choses... Oui,
même si je ne suis pas d'accord forcément avec vous, vous pouvez.
Mais il y a des choses qui font frémir tout de suite les auditeurs. Vous savez, on vit dans un pays où simplement émettre son opinion devient parfois un peu compliqué. Mais en l'occurrence, moi, je n'aime pas les musées. Voilà, je le dis franchement. C'est-à-dire que le concept...
Sortez immédiatement.
Le concept 19e du musée, qui consiste à présenter de façon, comment pourrait-on dire, objective, distanciée, un objet, qu'il s'agisse d'un objet d'art ou d'un objet du quotidien, etc., sous vitrine d'une certaine manière, pour le donner à voir, alors plus ou moins. Bon.
Un des reproches, justement, c'est qu'il y a beaucoup de meubles sous vitrine et ce n'était pas nécessaire.
Et ça, je pense que c'est un problème qui relève plutôt de la conservation. Là.
Je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas nécessaire.
Ce que je peux vous dire, ça, ce que je peux vous garantir, c'est que vous ne verrez jamais Jacques Garcia mettre un objet sous vitrine. Hein. S'il y a des vitrines, là, c'est quand, à mon avis, on a dû les lui imposer. Bon. Mais en tout cas, cette présentation-là, personnellement, je la trouve relativement... comment, je ne voudrais pas employer un terme qui choque les gens, J'ai employé dans une conférence récente un terme, une dame en est venue aux larmes, elle est venue me voir à la fin, elle m'a dit « Monsieur, vous m'avez beaucoup choqué, je ne vous écouterai plus jamais ». Bon, alors, il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Mais disons que je trouve ça un peu banalisant, d'une certaine manière. Moi, je n'aime pas, je vous disais tout à l'heure que je n'aime pas le principe de la collection. Le côté collection de timbres, le côté un peu comme dans les galeries historiques de Louis-Philippe à Versailles, hein, le côté alignement d'objets ou de portraits ou de que sais-je, ça me glace les sangs, personnellement. Donc, si, dans une maison comme le Louvre, on peut donner à l'intérieur de quelques pièces le sentiment qu'on n'est précisément pas dans un musée, mais qu'on est dans une évocation, je pense que ça va me plaire. Maintenant, il faut voir comment c'est réalisé, et ça, encore une fois, je n'ai pas vu, donc je suis mal placé pour en juger.
Suite donc de nos brèves. Après la tragicomédie de ces dernières semaines, la nomination de Laurent Lebon, sur laquelle je reviendrai également dans un article, est une excellente nouvelle à mon sens. Alors c'est vrai également que vous ne connaissez pas, mais c'est un ami cette fois-ci.
Voilà.
Jacques Garcia, votre ami. Laurent Lebon est un ami.
C'est l'émission des copains ici.
Mais non, mais j'essaye. Ça, il m'est arrivé de me fâcher avec des amis pour avoir dit des choses qu'ils n'aimaient pas. Donc, voilà. Mais là, je pense que Laurent Lebon, d'ailleurs, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord, puisqu'il aime bien la provocation. Il a fait les Nuits Blanches de Versailles que je n'aimais pas particulièrement. Il a fait beaucoup d'expositions, des fois un peu provocatrices. Mais c'est quelqu'un d'à la fois, c'est à la fois un excellent conservateur. Vrai directeur qui a mené de main de maître le projet du Centre Pompidou à Metz, où il a organisé de très bonnes expositions, je ne sais pas si vous y aviez vu,
oui, bien sûr.
1917, absolument remarquable, et quelqu'un qui saura sans doute apporter un certain apaisement à un musée qui en a bien besoin. Donc, j'estime, en tout cas, on verra après, s'il fait des choses que je n'aime pas, je le dirai, mais en tout cas, après Anne Baldassari, je pense que Laurent Lebon est une bonne chose pour le musée Picasso. À Fontainebleau, les lecteurs de la Tribune de l'Art le savent, nous avons passé 3 jours pour assister et participer au Festival de l'Histoire de l'Art. Comme chaque année, c'était vraiment une édition très réussie, avec un très beau temps.
On ne dira jamais assez combien il faut aller à Fontainebleau.
Vous y êtes déjà allé pour le Festival de l'Histoire de l'Art?
Alors pas ce festival.
Je vous incite à aller l'année prochaine, c'est vraiment très 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 agréable. L'année prochaine, simplement, il faut espérer que l'ensemble des communications sera enregistrée, puisque malheureusement, il y a beaucoup de communications au même moment, et qu'on va en voir une, et on aimerait en voir une autre. Il y a même eu cette année un festival off, auquel j'ai participé également, comme dans le IN, donc je trouve que c'est le vrai succès, le gage d'un vrai succès pour un festival. Mais il faut que le Festival d'Histoire de l'Art dépasse peut-être le cadre des amateurs qui se retrouvent là-bas avec plaisir, mais malheureusement ça reste peut-être un peu trop encore en un quant à soi, et je pense justement, et ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il faut que le grand public se l'approprie. En 2015, le pays invité sera les Pays-Bas, et le thème traité, l'immatériel. Je ne sais pas très bien ce que c'est que l'immatériel, mais peut-être qu'un site internet, un site internet est immatériel finalement. J'avais reçu à ce micro, il y a quelques semaines, Philippe Bélaval, président du Centre des Monuments Nationaux, et je lui avais fait part de mon interrogation sur le réel intérêt d'exposer JR sur les bâches du Dôme du Panthéon. Au moins, cela évitait la publicité, on y reviendra d'ailleurs sur la publicité dans la revue de presse.
Ça a évité la publicité de marque, mais oui. C'est une forme peut-être de publicité.
Oui, mais je pense, alors je n'ai pas vu encore le résultat, je ne suis pas allé, donc je suppose que tous ces portraits en gris, photomaton, ça va être assez neutre finalement.
Alors, il paraît qu'il y a la fille d'une de mes meilleures amies et qu'elle est heureuse comme tout, elle a fait des selfies, elle envoie à toutes ses copines.
Bon, enfin bref, en tout cas les photos publiées dans la presse que j'ai vues montrent que les photomatons de JR ne sont pas réservés au dos, mais également dans le Panthéon, sur le sol, au dôme intérieur, je ne suis pas certain, même si je ne suis pas opposé à ce qu'on puisse éventuellement, ponctuellement, faire de l'art contemporain au Panthéon.
Oui, là, c'est très transitoire, hein, quand même.
Oui, c'est transitoire, mais c'est pas très, je ne trouve pas que c'est très intéressant comme art contemporain, enfin bref. Je me retourne donc une nouvelle fois vers vous. On parlait de Versailles. Reprenons donc ce dictionnaire amoureux. Je veux dire que vous êtes extrêmement gentil pour la Tribune de l'Art.
Eh, mais c'était sincère. Sinon, j'aurais pas fait une entrée spéciale.
J'étais très flatté d'avoir effectivement une entrée spéciale. Donc, vous rappelez effectivement que certains ne m'aiment pas à Versailles, mais c'est très bien. C'est très bien. Et vous avez la gentillesse de dire qu'effectivement, bah, de temps en temps, je dis des choses qu'on ne lit pas ailleurs.
Voilà. Vous aurez compris depuis le début, finalement, de notre causerie, que je ne suis pas dans l'eau tiède et dans le politiquement correct. En ce qui me concerne, j'estime qu'il y a de temps en temps un vrai travail à faire de surveillance, de veille, d'alerte de l'opinion. C'est ce que vous faites remarquablement. Alors c'est vrai qu'à Versailles, je dis ça parce que c'est vrai qu'à Versailles, quand il m'est arrivé d'entendre parler mal de la Tribune de l'Art, parce que ça peut déranger certains, les uns ou les autres, et je tenais spécifiquement à vous défendre parce que je trouve que ce que vous faites, c'est, comme on dit, c'est salutaire. Le jour où il n'y aura plus personne pour faire ça, alors là, il faudra vraiment s'inquiéter.
Je vous remercie. Et même si on n'est pas d'accord, parce qu'on peut, dans une démocratie, ne pas être d'accord et discuter. Par exemple, quand je lis sur la page 40 le successeur de Pierre-André Lableau, donc vous, manifestement, vous dites pas mal de bien des architectes de Versailles. Jacques Moulin, nommé en août 2012, se trouve être par ailleurs l'associé de Frédéric Didier. On peut donc imaginer que le duo continuera d'œuvrer sans dissension majeure. Éventuellement, on l'imagine.
Avec un point de suspension mais on et un peu d'ironie.
Mais on le craint. Ouais, d'accord. Par exemple, vous n'avez pas fait d'entrée, j'ai regardé, il n'y a pas d'entrée grille. Je ne crois pas que.
Non,
sauf erreur que vous parliez de la grille.
Disons les choses clairement. Je suis membre de l'Académie Versailles, dont le président cette année était Frédéric Didier. Je connais Frédéric Didier depuis de nombreuses années. J'ai des relations tout à fait courtoises avec lui.
Vos amitiés vous perdront.
Oui, mais c'est sans doute vrai. Et ça, c'est sans doute vrai. Et vous savez que la grille en question m'a quand même empêché de dormir pas mal, disons-le. Il le sait, Frédéric. C'était d'ailleurs une plaisanterie entre nous. Je me rappelle un jour, il est venu me taper sur l'épaule dans la cour du château. Il me dit « Décidément, je crois que vous n'aimez pas ma grille ». Bon, c'est vrai que je n'aime pas cette grille. C'est pas un scoop. D'ailleurs, je l'avais fait venir sur Europe 1 pour qu'il s'en explique de cette grille à l'époque où elle a été inaugurée. Personnellement, je ne trouve pas que ce soit une réussite. Ça n'enlève rien à d'autres réussites qui lui appartiennent. Le grand vestibule de l'escalier de l'aile neuve, la restauration de la galerie des glaces. Enfin, il y a un grand nombre des travaux de Frédéric Didier qui sont remarquables.
Ah oui, à l'intérieur du château, il faut dire qu'il est sous l'œil attentif des conservateurs. Donc,
oui,
il y a peut-être plus.
Mais en tout cas, pour clore le chapitre grille. Ce n'est pas la restitution elle-même qui m'a choqué, parce que en soi, s'il s'agit de redonner sa cohérence à la partie au côté ville du château, s'il s'agit d'expliquer aux gens ce qu'étaient ces trois cours, à quoi elles servaient, et surtout s'il s'agit de supprimer cette affreuse statue équestre.
Ah, nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Nous en parlerons d'ailleurs. Nous allons parler de Louis-Philippe. Nous allons parler de Louis-Philippe dans deux minutes.
Donc tout ça, moi, m'allait plutôt bien. Après, la réalisation est une autre chose. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, le soubassement me paraît un petit peu haut, peut-être. Et puis la réalisation elle-même, vous savez, n'est pas ferronnier du XVIIe siècle qui veut. Les
Exactement.
Gens ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils ont pu sans doute, mais je ne parle pas de la dorure.
On dirait des montants de chaises d'or. Vous savez, ces horribles chaises d'or qu'on voyait chez nos grands-parents.
J'irai peut-être pas jusque là, mais bon.
Un petit peu. Justement sur les reconstitutions, vous parlez également des bosquets. Vous parlez vous n'avez pas pu vous empêcher, heureusement finalement, d'être un petit peu plus.
Mais je vois pas trop l'intérêt de ça, ouais. Franchement. C'est-à-dire que à l'extrême limite, qu'on veuille restituer une grille parce qu'elle permet notamment de modifier l'accueil du public et de le rendre plus cohérent, ce qu'on attend depuis plus d'un siècle à Versailles. Bon, en fait, ce qu'on attend depuis la fermeture des galeries historiques, pour parler clairement. Ça fait donc bien plus d'un siècle. Pourquoi pas ? Admettons. En revanche, qu'on aille reconstituer de toutes pièces des bosquets dont certains ont disparu avant même la fin du règne de Louis XIV... Si on était dans un état d'euphorie totale, qu'il n'y avait pas de nécessiteux, si j'ose dire, dans les éléments patrimoniaux du château de Versailles, je dirais après tout pourquoi pas, amusons-nous, que la fête commence. En l'occurrence, il y a des endroits qui seraient bien plus, qu'il serait plus urgent de revoir, à mon avis.
Donc vous êtes probablement contre la reconstruction du château de Saint-Cloud.
Ah, intégralement.
Contre la reconstitution des Tuileries.
Je trouve ça tout simplement ubuesque.
Alors, venons-en maintenant à Louis-Philippe. Parce que vous n'aimez pas Louis-Philippe, et ça me nave.
Ah, ce n'est pas Louis-Philippe que je n'aime pas, attention. Le prince Michel de Grèce, qui descend par sa mère directement de Louis-Philippe, m'a un jour dit « Mais je sais que vous n'aimez pas mon ancêtre ». Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien contre Louis-Philippe à titre personnel, qui en plus, je crois, a été non seulement un grand roi, mais un homme de goût et d'intelligence. En l'occurrence, enfin de goût, d'un certain goût et d'une certaine intelligence. Ce que je conteste, ce sont deux choses. D'abord qu'on veuille nous faire croire que Versailles doive quoi que ce soit à Louis-Philippe. Versailles n'a en rien été sauvé par Louis-Philippe. Il faut, alors là, je tiens tous les comptes à votre disposition, puisque ça, pour le coup, j'ai travaillé sur le sujet.
Je n'ai pas travaillé sur le sujet, mais ça m'intéresserait de les voir.
Donc, c'est-à-dire que,
j'ai lu ça, effectivement,
Louis-Philippe
dans
n'a jamais dépensé un centime pour sauver Versailles. Quand Louis-Philippe prend la maison, elle a été entièrement... entretenu par Napoléon et restauré par Louis XVIII, accessoirement un petit peu par Charles X, mais pour finir les campagnes lancées par Louis XVIII. Le sauveur de Versailles, c'est Louis XVIII. Accessoirement Napoléon Ier, mais c'est surtout Louis XVIII. Bon. Quand Louis-Philippe arrive et qu'il récupère ça dans sa liste civile en 1830, il commence à s'y intéresser en 1833, il va inaugurer ses galeries historiques en 37, il va continuer les travaux jusqu'en 48, puisqu'au moment de la révolution de février 48, on est encore dans une tranche de travaux qui devait être très importante sur les attiques. J'allais dire, heureusement, on n'est pas allé jusque-là. La révolution est arrivée à temps. Mais en tout cas, Louis-Philippe n'a jamais, enfin quand je dis jamais, je ne prétends pas, parce que alors là, quelqu'un va peut-être m'arriver à me sortir un devis sur la rénovation d'une croisée ou d'une porte, mais en tout cas, il n'a fait aucun chantier digne de ce nom de sauvegarde à Versailles. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé une demeure, alors là, c'est peut-être mon côté pas tellement ami des musées, vous voyez, c'est qu'il a transformé une demeure, une grande maison, avec notamment les fabuleux ensembles décoratifs de l'aile des princes, qui étaient les plus beaux appartements du monde à l'époque, si l'on peut dire, il a remplacé ça par des galeries historiques, c'est-à-dire ce qu'on appellerait nous aujourd'hui un musée. Alors c'était pas un musée au sens présentation d'éléments authentiques, c'était un musée au sens évocation d'un certain passé, en l'occurrence un passé magnifié qui voulait réconcilier les Français. Il y a un projet conciliateur dans la monarchie de Juillet. Il s'agissait de réconcilier les anciens légitimistes, les anciens républicains, les anciens bonapartistes dans une seule et même population qui verrait triompher le libéralisme de 1830. Bon, et Louis-Philippe avait évidemment, un très grand dessein pour Versailles. Je ne suis pas en train de diminuer l'ampleur de sa vision, ni la force d'une ambition à laquelle il a consacré beaucoup d'argent sur sa cassette privée. Ça n'a pas coûté un centime à l'État, il faut le dire. Bon, donc tout ça est vrai. Louis-Philippe se rend à Versailles plus de 300 fois. Il est sur le chantier en permanence. Vous savez qu'il n'y dort jamais. Ce qui vous montre le degré du traumatisme quand même. Surtout qu'on ne pense pas que le roi dort à Versailles. Mais en tout cas, il y passe des journées entières. Il suit les travaux avec son architecte Frédéric Neveu. Il commande à des peintres dont certains sont des barbouilleurs, peu importe.
Ne dites pas cela.
Il leur commande des kilomètres de peinture, etc. Tout ça est vrai. C'est un très grand projet. Mais c'est un projet qu'on le veuille ou non, et je ne suis pas évidemment loin de là le premier à le dire, relisez Faucillon, c'est un projet qui va détruire ce que Versailles avait de très spécifique, sauf dans les parties essentielles du corps central du château, qui ont été sauvegardées pour des raisons d'historicisme, et c'est la naissance de la notion de monument historique.
Alors, vous avez sans doute raison sur le fait que Louis-Philippe a détruit, vous le dites d'ailleurs là, quelque chose qui n'existait pas ailleurs. Bon, mais c'est un fait, on était en 1830-1840, oui, voilà. C'est historique, si vous voulez. C'est un peu comme de reprocher aujourd'hui Haussmann d'avoir détruit une partie de Paris. Et c'est vrai qu'on regrette une grande partie du Paris disparu d'Haussmann.
Maintenant, c'est un petit peu le même sujet, oui.
Maintenant, non, mais ça pourrait être comparé.
Oui, c'est vrai, c'est comparé.
Maintenant, ce sont des choses qui existent, et ce qui me gêne beaucoup, c'est que, historiquement parlant, le dernier état qu'on connaît de Versailles, c'est l'état Louis-Philippe.
Ah, mais bien sûr.
Et c'est ce que je regrette, justement, quand vous dites que cette sculpture, dont je ne vois pas ce que vous n'aimez pas sur cette sculpture, elle représentait le Versailles de Louis-Philippe, c'est entendu, comme la cour où se trouve devant le château. Là, j'ai un trou de mémoire.
Cour royale.
Non, pas la cour royale. Peu importe.
La cour d'honneur, la cour royale et
oui,
la cour de marbre.
La cour de marbre. Voilà. Excusez-moi, j'avais du mal à trouver le terme. La cour de marbre avait été, je ne sais plus si c'était rehaussée ou...
Ah non, elle avait été au contraire, elle avait été complètement aplatie.
Aplatie, exactement. Donc elle a été récemment rehaussée.
Enfin, en 1982.
Voilà, oui, il y a une trentaine d'années. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un Versailles qui était le Versailles Louis-Philippe, état historique. À l'époque, les monuments historiques n'étaient pas considérés comme aujourd'hui, il n'y avait pas la même protection qu'aujourd'hui. Ce que je regrette, c'est qu'on continue de nos jours à détruire cet état historique pour revenir à quelque chose qui n'existe pas. Par exemple, prenons un exemple. Je prends un exemple concret. La dorure des toits.
Oh là là.
Alors, bon, d'accord, vous êtes à peu près d'accord. La dorure des toits, elle existait certainement au temps de Louis XIV, mais elle avait disparu plus longtemps, et au XIXe siècle, elle n'existait plus.
Ouais.
Et donc, on fait une dorure
ça,
qui revient...
Ça, c'est pas Louis-Philippe, hein, ça, hein.
Non, c'est pas le film, c'est Frédéric Didier, là.
Excusez-moi. Oui, ça, c'est tout ce qu'il y a de plus contemporain. Bon, alors, décidément, vous avez décidé de vous voulez me fâcher absolument avec Frédéric Didier.
Pas du tout. La vous dorure défendez des très bien.
Est-ce que j'ai droit à un joker dans cette émission?
Tout à fait.
Alors, joker sur la dorure des toits.
Très bien, parfait. Donc, joker.
Alors, pour ce qui est de Louis-Philippe, là, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Puisqu'on ne peut pas parler d'Alésia, au moins parlons de Louis-Philippe. C'est un sujet qui me tient à cœur. Il ne s'agit en rien de toucher aux grands ensembles muséographiques créés par la monarchie de Juillet à Versailles, c'est-à-dire que la galerie des batailles
que vous n'aimez pas, que vous ne trouvez pas belle.
Moi, je la déteste.
Elle est très belle. On est d'accord. Okay. Parce qu'elle est très belle et les peintures, ils sont très belles également.
Certaines, ils sont extraordinaires.
Pas toutes, évidemment. Il y a des plus ou moins bien.
Fontenoy d'Horace Vernet, il y a la bataille de Taillebourg de la Croix qui est sublime, l'entrée des croisés dans Jérusalem. Bon, il y a de très belles toiles, mais il y en a d'autres sur lesquelles je préfère ne pas m'attarder quand même.
D'accord. Bon.
Mais pour ce qui est de cette galerie et du salon de 1830 qui lui succède, d'ailleurs, tout à fait au bout de l'aile des princes, au bout de l'aile du midi, personne ne songerait de près ou de loin à les remettre en cause. De la même façon, les salles des croisades, par exemple, sont non seulement personne ne les a attaquées ou abîmées, mais au contraire, on vient de les restaurer. Et bien, d'ailleurs,
elles
ont été bien restaurées. Bravo Frédéric, vous voyez.
Je pense qu'à l'intérieur du château, les interventions de Frédéric Didier sont bonnes.
Prenez par ailleurs, on a déjà gagné ça, prenez la salle des états généraux, par exemple. Bon, alors on pourrait parler de certains aspects, mais globalement, elle n'a pas été remise en cause. Donc, les grands apports muséographiques du roi citoyen sont maintenus, et personne ne songe à les enlever. Ce contre quoi on a tendance à se battre, c'est ce qui attaquait directement l'architecture et la compréhension, ce qu'on peut appeler l'intelligence du bâtiment. Et vous parlez de la cour de marbre, ce qu'avait fait Louis-Philippe était quand même d'une violence. Il avait carrément supprimé la cour de marbre en tant que telle, et on avait des espèces de pavés inégaux d'ailleurs, qui comme une espèce de marée, de vague de marée, arrivaient directement, brutalement, à touche-touche sur les murs, ce qui avait contribué, puisqu'on était 1,20 m plus bas, ce qui avait contribué à faire des espèces de socles, de colonnes et de pilastres gigantesques, démesurés, hein, qui mesuraient 1,40 m ou 1,50 m, comme ça, qui étaient complètement... Bon. Donc, on est revenu là-dessus, tant mieux. On est revenu aussi sur le vestibule bas. Bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est les années 1980, mais on a estimé que la transparence de la bâtisse, la logique générale des bâtiments pouvait tout à fait justifier qu'on supprime 5 petites salles de musée toutes moches, qui ne servaient d'ailleurs plus à rien depuis 100 ans, au rez-de-chaussée du corps central. Bon, ben, ça, je ne vois pas ce que ça dérange. Alors, pour ce qui est de l'objet de notre litige, c'est-à-dire la fameuse statue équestre de Petitot et Cartelier. D'abord, c'est une statue composite, hein, vous en connaissez mieux que moi l'histoire. Ce cheval ancien, et on a remis ce cavalier qui est une fois et demie à l'échelle, donc évidemment...
Ça n'apparaît pas si évident.
Quand même. Non, alors, regardez-la bien, on a l'impression que j'ai sur un poney. Hein,
oui, c'est ce qu'on dit sur ça, mais je ne suis pas d'accord.
Bon, et puis la statue d'ailleurs, la statue du roi lui-même, il y aurait beaucoup à dire sur son côté. Alors bien sûr que c'est une certaine représentation, c'est l'image, c'est un peu Job avant l'heure, c'est l'image que le 19e siècle voulait se faire du roi soleil, comme on l'a d'ailleurs baptisé à l'époque, de même qu'on a baptisé la grande galerie, galerie des glaces, de même qu'on a baptisé l'allée royale tapis vert, enfin,
d'ailleurs grande galerie, dans votre dictionnaire, c'est grande galerie et pas galerie des glaces.
Ben oui. Et donc, la statue en question, outre qu'elle était discutable en soi, mais ça admettons, elle était en plus située au cœur même de la cour royale, dont elle cassait complètement la perspective. Bah,
c'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on la garde plutôt que de mettre la grille. Voilà.
Alors ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, je vous avoue que le jour où elle est partie, cette fameuse statue, alors elle n'est pas partie bien loin,
on
l'a avancée de 350 mètres, mais en tout cas, le jour où on l'a déplacée, j'étais là avec mon appareil photo et je me rappelle que pour moi, c'était un instant de jubilation.
Très bien.
Vous savez, entre parenthèses, que tout autour de cette fameuse statue, il y avait autrefois les fameux maréchaux. Hein. Il y avait toutes ces grandes statues qui représentaient les grands hommes de France.
Ils sont partis, je ne sais pas où. Ils
défiguraient complètement la...
C'est vrai qu'il faut reconnaître, l'état Louis-Philippe n'existait déjà plus quand on a déenlevé cette statue.
Ah non, depuis longtemps.
La revue de presse. Une revue de presse très courte, Claire Baumeler, dans le Figaro, a écrit un article « La bâche de l'Automobile Club risque de faire débat ». Elle a raison. On lit, par exemple, alors il faut savoir simplement que Place de la Concorde, sur l'Automobile Club, on a une belle publicité qui va défigurer la place, à mon avis, pendant au moins 2 ans. On sait bien que ces publicités sont soi-disant temporaires, sauf qu'elles sont temporaires à un endroit, puis temporaires à un autre, et quand finalement, tout Paris est couvert de bâches publicitaires. On lit dans ce journal que l'Automobile Club est un organisme privé qui doit autofinancer tous ses travaux. Bah oui, c'est le cas de tous les propriétaires de monuments. Les travaux de restauration n'auraient jamais pu avoir lieu sans ce mécénat, dit-il encore. Mais on se demande comment font les propriétaires privés de monuments historiques pour les restaurer. Quant à la DRAC qui donne son autorisation, je préfère ne pas en parler. Qu'en pensez-vous de ces bâches qui couvrent Paris ?
J'ai horreur de tout ce qui défigure. Moi, vous savez, on revient
les
toujours
arrières,
à cette idée
dit.
Oui, un petit peu réac. Ce côté harmonie, alors il faut de la rupture aussi. Tout est dans l'harmonie et le contraste. Mais je n'aime pas que le contraste soit marchant. Il peut de temps en temps qu'il y ait une verrue ici ou là, après tout ça fait bouger les choses, que l'on défigure nos paysages avec des publicités, je trouve ça choquant. Et en l'occurrence, rendons grand hommage à cette loi qui a interdit les publicités dans les campagnes, dans les villages, etc.
Alors, justement,
rappelez-vous quand on était petit, si je puis dire, enfin moi je suis un peu plus âgé, mais on avait vraiment des villages qui étaient devenus irregardables.
Mais est-ce que vous pensez qu'elle va être appliquée, cette loi ?
Elle est appliquée, ça fait 40 ans qu'elle est appliquée.
Donc, vous voyez pas dans les campagnes, il y a de la publicité un peu partout.
Pas dans tous les endroits.
Je pensais que vous parliez parce que j'ai lu récemment, et je n'ai pas approfondi le sujet, que dans les entrées de ville, c'est les entrées de ville qui sont épouvantables.
Alors ça, on va étendre cette législation aux entrées de ville.
Je confondais ce que vous disiez avec les entrées de ville, voilà. Puisque j'ai vu que récemment cette loi était passée. Est-ce qu'elle serait appliquée ?
En tout cas, elle a été bien appliquée dans les campagnes. Pourquoi pas dans les entrées de ville ?
Espérons-le. Sujet traité dans la rue de presse.
Une toute petite parenthèse, mais ça pose la question de la force de l'État et du respect qu'on a envers l'État. À partir du moment où l'État se désengage de tout et finit par n'assumer plus aucune responsabilité, il ne faut pas s'étonner que certaines lois soient moins respectées.
Nous sommes tout à fait d'accord. Vincent Noce, dans Libération, a consacré deux articles intéressants au musée Soulages. Alors, Pierre Soulages sort du champ de la Tribune de l'Art, qui ne s'intéresse qu'aux artistes morts, mais tout de même, c'est quand même un peintre très important.
Il est encore en vie.
Exactement, c'est pour ça que je dis qu'il sort du champ de la Tribune de l'Art. Mais c'est difficile de ne pas signaler l'ouverture du nouveau musée, qui a fait l'objet donc de deux bons papiers de Vincent Noce dans Libération. Il trouve le bâtiment très réussi. C'est vrai qu'il a l'air assez intéressant vu sur photo, mais il faudrait le voir comme en vrai. Il faudra le voir en vrai et comment il s'insère. Je ne l'ai pas vu, donc je n'en jugerai pas.
Ça fait penser au Mucem, vous savez, dont toute la presse a dit que c'était très réussi. Ouais, quand vous allez sur place, ça vous donne des haut-le-cœurs.
Je ne sais pas.
Je parle de l'idée globale qui est très belle. Je parle de la réalisation concrète avec des décalages de 2,5 cm entre chaque jointure, etc.
Je ne peux pas juger. En tout cas, Vincent Noce l'a aimé. Peut-être que je n'aimerai pas. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. J'espère qu'il s'insère bien dans le paysage. C'est la première chose qu'on doit demander à un bâtiment de ce type. Voilà, mais je voulais simplement signaler ces deux articles, après nos lecteurs et auditeurs se feront une idée eux-mêmes. Alors j'en viens, pour terminer cette émission, à parler du patrimoine, donc la protection du patrimoine, qui est, vous le savez, un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je sais que ça vous intéresse également. Alors j'aurais deux questions, une première question plutôt, qui est de comment peut-on faire comprendre, alors peut-être avec cette émission que vous nous dites préparer sur l'histoire de l'art. Alors il y avait à l'époque l'émission...
L'émission, pour être tout à fait honnête, elle sera plutôt centrée, si tout va bien, et si j'arrive à la mettre en œuvre, c'est très complexe, mais si elle aboutit, elle sera plutôt centrée sur la peinture, en l'occurrence.
D'accord.
Donc on parlera malheureusement pas beaucoup d'architecture.
D'accord, la peinture qui est plutôt moins menacée...
Oui, tout à fait.
Et encore, les tableaux dans les églises sont souvent en mauvais état. Mais comment faire comprendre... J'ai l'impression souvent que le grand public ne sait pas que le patrimoine en France est très menacé, s'imagine finalement que tout va bien.
Mais vous savez, je ne veux pas vous alarmer, mais le grand public ne sait rien sur rien, le pauvre, si je puis dire, c'est parce qu'on fait tout pour ne pas le lui dire. Là, j'étais l'autre jour, pardon de sortir une seconde de notre sujet, mais pour vous dire que ça ne concerne pas seulement le patrimoine, j'étais sur le porte-hélicoptère d'Ixmude de la Marine Nationale, et j'ai appris où en était le budget de la défense et ce qui était en train de se préparer pour les années qui viennent. Vous croyez que le grand public sait que la France va perdre son armée dans les 18 mois qui viennent? Je crois qu'il n'en sait rien du tout. On fait bien attention à ne pas l'informer d'un certain nombre de choses.
Alors en tout cas, pour le patrimoine, puisque c'est effectivement le sujet ici, comment faire aimer le patrimoine? Comment leur faire comprendre? Comment arriver à vulgariser et encore une fois, vulgariser, c'est un terme qui me convient tout à fait, vulgariser l'amour du patrimoine et sa défense.
Je pense que c'est d'abord un problème d'éducation. On ne protège que ce qu'on aime et on n'aime que ce qu'on connaît. Donc si vous ne connaissez pas les choses, si on ne vous a jamais emmené devant un château, dans une église, au cœur d'un parc, vous ne pouvez pas en apprécier les beautés, vous ne pouvez pas en être amoureux d'une certaine manière, et donc vous soucierez fort peu de la protection. Il y a là un travail qui, à mon avis, est quand même d'abord, qu'on le veuille ou non, le travail des familles et des parents, ça me paraît essentiel, mais à défaut, c'est un travail qui relèverait normalement de l'éducation nationale, c'est fondamental.
Vous rejoignez Pierre Rosenberg sur ce plan.
Mais bien sûr, il y a là un travail d'éducation essentiel à faire. Ce n'est pas uniquement, on ne dit pas ça pour faire bien, on dit ça parce qu'il y va de la survie à terme de cet extraordinaire legs des siècles en matière patrimoniale. Donc là, je pense que c'est d'abord le travail. Ensuite, et peut-être malheureusement à défaut, c'est vrai que nous autres, dans les médias, avons un rôle qu'il ne faut pas exagérer ou amplifier outre mesure. Nous sommes peut-être à même de sensibiliser les gens. Vous savez, le public, globalement, aime son patrimoine. Regardez le succès des fameuses journées du patrimoine.
Il l'aime, mais finalement, quand on parle, par exemple, avec les présidents d'associations de protection du patrimoine, ils ont finalement assez peu d'adhérents, alors que leur action est absolument indispensable. Ils font ce que malheureusement l'État, comme vous le disiez tout à l'heure, ne fait plus souvent, c'est-à-dire qu'ils essayent de s'opposer par tous les moyens, y compris judiciaires, qui coûtent assez cher, et ils manquent de moyens. Donc je relance d'ailleurs...
Le patrimoine, pardon de plagier cette vieille formule, mais qui est vrai, le patrimoine, c'est la richesse de ceux qui n'ont rien. Il faudrait commencer peut-être par faire comprendre à tout le monde que c'est la propriété de tous, de la collectivité. Quand vous êtes devant une sublime cathédrale, quand vous voyez en ce moment les restaurations qui sont faites notamment à Chartres, je pense à ça, je ne sais pas pourquoi c'est l'image qui me vient, mais ça, ça appartient à tous, c'est le bien de tous. Le SDF qui est devant avec son chien et sa petite gamelle, il est autant propriétaire de la cathédrale de Chartres que vous et moi. Et donc, il faudrait que les gens comprennent ça et se dévouent pour ce qui est leur propre bien, peut-être. Je crois que c'est la chose. Donc, leur enseigner les choses, leur faire connaître. À partir du moment où ils connaissent, leur transmettre un respect et même, je dirais, un amour. Et puis, leur faire comprendre que c'est aussi leur affaire à eux. C'est ce que font très bien les Anglais. Pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ça magnifiquement de l'autre côté de la Manche et que de ce côté-ci, on n'y arrive pas ?
Alors, par rapport à ce que vous dites, effectivement, c'est ce qu'il faudrait. On sait malheureusement que c'est un petit peu utopique, parce qu'on ne va pas vraiment vers cela. En revanche, ce qui m'interroge, ce qui me pose question, c'est
enfin,
que...
on n'y va pas, mais encore une fois, moi, j'ai une confiance infinie dans les ressources du peuple, comme on dit, puisque c'est très à la mode de parler de peuple, ben allons-y, mais c'est vrai, moi je ressens ça, je pense qu'il y a des ressources infinies, et que on est pas à l'abri d'un retour d'intérêt pour l'histoire, pour le patrimoine, pour tout ça. Ça peut arriver.
Voilà. Alors oui, mais ma question est celle-ci. Donc vous parlez toujours de cette émission plutôt sur la peinture, mais il y a extrêmement peu d'émissions à la télévision.
Ah mais pour une raison, ça. Alors pourquoi? Il y a une émission qui a quand même eu un succès phénoménal, qui est Des Racines et des Ailes.
Oui.
Donc cette émission a... Alors elle a un petit peu trusté le sujet.
Le souci, c'est que par exemple, quand on voit... J'aime bien cette émission, mais quand on voit par exemple un plafond peint, rarement elle donne le nom du peintre.
Oui,
Mais c'est vrai qu'elle a un succès phénoménal. Mais pourquoi pas d'émission?
Vous savez pourquoi on ne donne pas le nom du peintre? Alors là, ça, je peux vous parler en tant que professionnel. Pour une fois, là, je ne vais plus être amateur. Pendant deux minutes, je vais vous donner un avis d'expert. C'est parce que les conseillers de programme de la chaîne, ou enfin peu importe, vont probablement demander qu'on allège le commentaire. Et ce n'est pas parce que ce sont des méchants garçons, c'est parce qu'ils savent très bien, malheureusement, on a fait un très grand nombre d'études là-dessus, que plus vous donnerez des sources, plus vous allez appuyer ce qu'on appelle l'appareil critique en matière d'édition, et plus le public se détourne. C'est-à-dire que montrer la beauté d'un plafond, je pense que ça parle à tout le monde. Si vous commencez à dire que le plafond est de Lemoine, vous risquez de perdre 10 à 15% de l'intérêt du public. Et si vous expliquez en quelle année il a été peint et pourquoi il a été et pourquoi c'est un plafond marouflé et non pas à fresque, alors là, vous perdez les deux tiers de l'intérêt.
Alors, j'allais dire, Des Racines et des Ailes, quand je la regarde, c'est une bonne émission. Malheureusement, elle a donné trop souvent la parole aux architectes en chef des monuments historiques. Nous y revenons toujours, comme si c'était les plus grands protecteurs du patrimoine,
parlons-en.
Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Donc Des Racines et des Ailes, exception, mais...
Si je citais Des Racines et des Ailes, c'est pour dire que l'une des émissions, pour ne pas dire peut-être l'émission qui a le plus de succès en France, reste une émission de patrimoine, quand même. Donc c'est plutôt encourageant de ce point de vue.
Alors, il est étonnant qu'il n'y en ait pas davantage.
Alors oui, alors pour, là, à ça, trois raisons. Une raison de coût, Ce sont des émissions qui sont. Je pense que le public serait surpris de savoir combien coûte une émission comme ça. Sans révéler de grands secrets, on va dire que c'est aux alentours de 400 000 euros. Hein. Donc ce sont des.
On pourrait faire une émission de plateau, tout bête. Moi,
Mais elle n'aurait pas d'auditeur, elle n'aurait pas.
C'est ça le problème, voilà. Parlons en deux minutes, puisque nous arrivons à la fin de l'émission, des églises. Hein, donc la destruction des églises, je sais que c'est quelque chose qui vous touche. Encore une fois, nous parlons ici de patrimoine, d'histoire de l'art. Il est normal aussi d'ailleurs que les catholiques et les chrétiens soient choqués par la destruction des églises, des fois plus choqués d'ailleurs que le clergé, qui finalement du moment qu'il a un lieu de culte...
Entre nous soit dit, je ne suis pas sûr que ce soit les chrétiens spécialement, et encore moins le clergé, qui se choquent les premiers. Hein.
Bah, mais tout à fait, c'est ce que j'allais dire, le clergé, voilà, le clergé du moment qu'il a un lieu de culte, ça, il se fiche complètement, et il a sa responsabilité dans la destruction d'églises récemment.
Et vous avez raison d'avoir souligné dès le début qu'on peut vouloir protéger un certain patrimoine, et notamment cet extraordinaire blanc manteau d'église,
que vous citez dans votre article.
Voilà, sans pour autant être soi-même ni pratiquant, ni religieux, que sais-je. Je crois vraiment qu'il faut déconnecter ces deux aspects. Vous avez raison de le souligner.
Je pense que c'est important. Moi, arriver dans un village qui n'aurait pas d'église, comme maintenant c'est le cas de GT, église du Maine-et-Loire, où cette église, encore une fois, dominait, les photos sont sur la tribune de l'art, dominait le village.
Spectaculaire,
vous connaissez. Oui, église entièrement détruite, il ne reste plus que je crois que le clocher. On va construire c'est dramatique. Je répète souvent l'exemple d'Abbeville, où le maire Nicolas Dumont a détruit une église sous prétexte de coût, alors qu'il va dépenser autant d'argent pour aménager l'emplacement de l'église qu'il fallait en dépenser pour la restaurer. C'est quand même invraisemblable. Donc, ça, ce sont des choses qui quand même parlent aux gens, et oui, finalement, on n'en parle pas beaucoup.
Alors, il y a un observatoire du patrimoine religieux, oui. C'est Béatrice Delandia, il y a cette magnifique association qui s'appelle Sauvegarde de l'art français, dirigée par Olivier Drouan, l'ancien patron de l'Universal.
Qui était notre invité.
Ah bon, ben alors voilà, vos auditeurs connaissent ça par cœur. Et il vous a donc parlé de la junior entreprise du Louvre, etc.
Bon. Tout à fait.
Alors, il y a des initiatives. On ne peut pas dire, je pense au concours patrimoine pour demain organisé par le magazine Pèlerin, qui, je crois, est un peu en difficulté, ce concours d'ailleurs, mais en tout cas qui va encore avoir lieu cette année. Moi, je suis membre du jury depuis de nombreuses années maintenant, et je sais que nous allons siéger là le 11 juin prochain. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas d'initiative. Le problème, il est triple. Il est d'abord que les populations ne se mobilisent pas assez. Ça, c'est le premier principal problème. La deuxième chose, c'est que le patrimoine en question est colossal. Ça va du petit patrimoine de proximité, hein, la petite chapelle du coin de la route, jusqu'à la grande cathédrale qui, généralement, d'ailleurs, est plutôt bien prise en charge, quoique il y aurait encore à dire là-dessus. Et puis, le troisième problème, et ça c'est un problème politique et qui concerne tout le monde, c'est le désengagement de plus en plus alarmant de l'État. Alors, on nous dit, vous savez, on nous dit l'État n'a plus les moyens, c'est la grande formule, on n'a plus d'argent, c'est la même chose en matière de justice, c'est la même chose en matière de, enfin, dans plein de domaines. Oui, mais enfin, c'est pas vrai, ça. Il se trouve que j'ai fait des études d'économie, j'ai fait Sciences Po, c'est pas pour ramener mes diplômes, mais c'est pour dire que je connais un peu ce sujet-là. Et le budget de l'État n'est pas en train de se réduire comme une peau de chagrin. C'est un problème d'arbitrage.
Exactement.
On a choisi depuis 30 ans de privilégier des budgets sociaux, pour parler clairement. Alors après, c'est une question politique, à chacun de prendre ses responsabilités. Mais en tout cas, ne disons pas que la TAN n'a plus les moyens. Disons que l'État préfère faire des allocations tous azimuts dans d'autres domaines que d'entretenir une certaine frange du patrimoine qui lui paraît aujourd'hui moins prioritaire. Eh bien moi, je trouve ça très dommage, et je pense que si les citoyens se mobilisaient, ils pourraient amener l'État à changer d'avis là-dessus. Vous savez, les hommes politiques ne sont pas autistes, contrairement à ce qu'on a tendance à nous dire concernant certains en ce moment. Ils écoutent globalement l'évolution de leur opinion, et si les gens se mobilisaient vraiment pour le patrimoine, croyez-moi, les hommes politiques, du jour au lendemain, deviendraient des défenseurs du patrimoine.
Livre. Des livres reçus, en fait, un livre reçu, ou plutôt deux livres reçus cette semaine. Le premier, il est très beau. Il accompagne l'ouverture des salles d'objets d'art du Louvre. C'est un catalogue des plus beaux objets d'art, enfin, une sélection de très beaux objets d'art. Donc, c'est un catalogue comme on les aime, avec des notices, avec
un historique, peut-être pas un historique, mais en tout cas avec des notices, des belles photos, etc. C'est un très gros ouvrage, sous la direction de Jean-Luc Durand, qui est le nouveau patron des objets d'art du Louvre, de Michel Mamné-Briva et de Frédéric Dassas, qui sont conservateurs.
C'est amusant que le titre soit de Louis XIV à Marie-Antoinette. On a l'impression que Louis XVI est passé à la trappe.
C'est tout à fait, oui, je n'avais pas remarqué, mais c'est absolument ridicule. Mais c'est le côté Marie-Antoinette. Il y a une salle Marie-Antoinette au Louvre, parce qu'effectivement, Marie-Antoinette fait vendre. Donc c'est un petit peu du marketing, cela. Mais effectivement, Louis XVI était peut-être plus le successeur de Louis XIV.
Je l'égratigne gentiment dans le dictionnaire.
Ah, je me rappelle plus ça, il faudra regarder. pour terminer, quelles sont. Alors, deuxième chose, effectivement, donc le catalogue dont nous avions parlé la semaine dernière de l'exposition de Lens sur le désastre sur la guerre, qui est une bonne exposition et qui aura bientôt un article sur la tribune de l'art. En deux mots, est-ce que vous avez des expositions, est-ce que vous avez des livres dont vous voyez nous faire parler de l'histoire de l'art?
Alors, je ne sais pas si elle est encore ouverte, mais je crois que oui. Une expo absolument magnifique et dont, à mon avis, on n'a pas suffisamment parlé. Alors, je ne parle pas de la tribune de l'art, mais je parle des médias en général. C'est la très belle exposition sur les vernis Martin, hein, sur les lacs au musée des arts décoratifs.
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé. La tribune de l'art, effectivement, on a parlé. Il y a eu un article.
Magnifique. Et en plus, alors, ce qui est remarquable, c'est qu'au-delà
aux arts décoratifs.
De la splendeur aux arts décoratifs, au-delà de la splendeur de ce qui est montré, l'exposition elle-même est intelligente, c'est-à-dire qu'elle est très bien conçue. Les objets parlent presque d'eux-mêmes, ils se répondent d'une vitrine à l'autre, etc. Pour moi, c'est, dans son genre, c'est un peu un modèle. Il faut aller voir les expos Joséphine, bien entendu. Il faut, je ne sais plus quoi vous dire d'autre.
Je signerai l'exposition Gérard, Gérard à Fontainebleau. Je n'ai pas encore écrit l'article.
Il faut toujours
Vous savez que c'est mon leitmotiv, moi, à la radio, c'est pour ça que je m'amuse à dire ça.
Fontainebleau est un super... Je ne sais pas si vous avez vu, si, il faut le dire un mot quand même, c'est la restauration du théâtre.
Formidable.
Exceptionnelle par un très bon architecte en chef du monument historique. Ça va lui nuire, si je le dis une nouvelle fois, mais c'est Patrick Monceau. Voilà. Merci Franck Ferrand d'avoir parlé avec nous de patrimoine et d'histoire de l'art et de protection du patrimoine. Notre prochaine émission aura lieu la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si ce sera jeudi ou vendredi. Cela dépendra de deux ou trois points. Heureusement, sur Internet, on peut faire l'émission un peu comme on le veut. C'est pas comme vous à la radio. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée.
Merci.